travaux avec cette quatrième table ronde consacrée à la mobilité internationale et aux approches interculturelles dans le cadre du chapitre Les enseignants de français et la mondialisation, en essayant de garder le temps qui nous était prévu au départ, c'est-à-dire on va peut-être rattraper le retard de la table ronde précédente. C'est peut-être un nouveau défi, Fabienne, tu vois. Donc lorsqu'on a décidé de se pencher sur cette question, les enseignants de français et la mondialisation, les organisateurs, il nous a semblé important de consacrer un peu de temps à la notion de culture et d'interculturalité, puisque, comme vous le savez tous, si ce métier, le métier de professeur de français, est par essence ou ontologiquement culturel ou interculturel, dans la mesure où lorsqu'on apprend la langue de quelqu'un d'autre, on est aussi confronté à sa culture, à la culture de l'autre, la question de la mondialisation, du développement de la mondialisation, du développement des échanges entre les personnes, de la mobilité, doit sans doute modifier, reconfigurer, redéfinir sans doute la dimension interculturelle du métier d'enseignant. Donc pour ce faire, on a réuni un panel international avec des approches donc interculturelles que je vais vous présenter maintenant. D'abord, Madame Zarat, Geneviève Zarat, qui est professeure émérite de didactique du français à l'INALCO, qui dirige une équipe de recherche qui s'appelle le PLIDAM. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi hein, si je... Que vous... Enfin, et qui est bien évidemment spécialiste des questions interculturelles dans la didactique du français, et vous connaissez ses nombreux ouvrages. À ma droite, Nandita Vaglé, qui est professeur de français, présidente de l'association indienne des professeurs de français de West Zone, enseignante, traductrice, interprète, qui s'est également penchée sur ces questions de culture, la dimension artistique, l'héritage culturel dans le champ de l'enseignement. Et puis à ma gauche, Monsieur Marc-Albert Plaquette, canadien, enseignant de français dans le secondaire, dans la banlieue de Montréal, également secrétaire général de la CAN, la Commission Amérique du Nord, de la FIPF, trésorier de l'Association canadienne des professeurs d'immersion, ambassadeur pour le Canada du projet Bonjour du Monde, coordinateur de la plateforme Bonjour des Amériques et membre de la commission de l'enseignement secondaire du Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Voilà, alors pour commencer, je me tourne tout de suite vers Madame Zarat et je lui pose la première question. D'après vous, en quoi la mondialisation redéfinit-elle, engendre-t-elle de nouveaux besoins en interculturel? En quoi cela concerne-t-il les professeurs de français?
Merci Monsieur le Président de m'avoir invité et de me donner la parole. Je trouve que c'est toujours bien de partir d'une définition, donc c'est pas pour échapper à la réponse. Mais je pense que d'abord il faut bien comprendre que la mondialisation n'est pas forcément un phénomène contemporain. C'est-à-dire qu'il y a eu, y compris dès le Moyen-Âge, des phénomènes qui ont existé et qui, évidemment, mutandis, peuvent être remis en perspective avec ce phénomène contemporain. La mobilité des étudiants, elle date dès le Moyen-Âge d'une circulation du savoir. La mobilité des commerçants, prenons les différentes routes de la soie, ou les mobilités aussi religieuses comme les pèlerinages, que ce soit de la Mecque ou de Saint-Jacques-de-Compostelle ou d'autres religions, je dirais, font partie de cet environnement, et je pense que c'est toujours intéressant de l'avoir en perspective et d'inscrire notre réflexion dans cette profondeur historique. Ce qui me semble intéressant et nouveau, on va dire, c'est d'abord de dater le phénomène de mondialisation, je dirais, dans les années 80. Je pense qu'il y a à peu près un consensus à ce sujet, avec, je dirais, deux nouveautés, l'accélération des savoirs, Hein, donc ça, je pense que ça a été traité précédemment. Et puis sa généralisation, c'est-à-dire que on a une forme un peu paradoxale où je dirais avec la mondialisation sont nées des formules low cost. Hein. C'est par exemple la circulation de professeurs, d'étudiants entre dans certains pays était impossible. Elle est maintenant d'un montant de 10, 20 euros. Évidemment, ce qu'on va remarquer, c'est que cette configuration n'est pas, je dirais, crée des formes d'injustice géographique, d'inégalité géographique et d'injustice sociale, parce que tout le monde n'en est pas le bénéficiaire. Hein. Je pense que l'Europe doit quelque chose à cette forme de facilitateur des échanges réels de personnes. Mais ça n'est pas le cas, et bon, je pense à nos collègues africains qui n'ont toujours pas de formule low cost pour circuler facilement dans le monde, ou même qui n'ont pas ces connexions grand débit qui permettent d'avoir un accès facile à Internet, télécharger des dossiers, etc. Enfin, c'est les petites choses qui empêchent les grands projets. Ce que je voudrais dans ce petit panorama qui ne me laisse pas perdre de vue la question, c'est définir la mondialisation comme un phénomène qui clive les sociétés. Hein, c'est-à-dire il y a les gagnants et les perdants. Et elle accentue les inégalités sociales, c'est-à-dire les riches sont toujours plus riches, et ceux qui ne peuvent pas tirer des petits bénéfices de la mondialisation sont toujours les plus pauvres. C'est pour ça que je pense que, enfin ce que j'apprécie dans l'intitulé, c'est qu'à mobilité, vous avez mis un S. Chose que nous avions fait aussi dans cet ouvrage, où le mot mobilité apparaissait en bonne et due forme, parce que à la mobilité géographique, on va aussi croiser d'autres formes de mobilité, et par exemple la mobilité sociale. Et là, je dirais, dans ce panorama, entre en scène l'enseignant, qui, je dirais, dans une vision, j'ai envie de dire, républicaine, au sens large du terme, a son rôle à jouer pour, justement, en quelque sorte, rattraper ces formes d'inégalité. Et l'école doit donner, en quelque sorte, un capital social que la famille n'a pas donné. Donc, ça, c'est, je dirais, les a priori que je mets derrière ma réflexion. Alors, la mondialisation, elle est porteuse de rêves, hein, et les enseignants de langue sont, je dirais, chargés de ce rêve. Ils ont même, quelquefois, pourrait-il se dire, intérêt à le cultiver. C'est tout bénéfice, je dirais, pour leur clientèle, je mets ça entre guillemets, notre clientèle. Il y a évidemment dans le rapport que nous avons entre les langues et la mondialisation, une langue qui n'en est plus une d'ailleurs, qui s'appelle l'anglais. Je dirais qu'il n'en est plus une parce qu'elle est devenue un tel repère qui va tellement visible, où que l'on soit dans le monde, hein, où justement les phénomènes d'ascension sociale passent par la maîtrise de l'anglais. Cette langue n'en est plus une dans la mesure où elle devient, comme disent nos collègues anglicistes, un skill, hein, c'est-à-dire comme les savoir-faire liés aux nouvelles technologies, l'anglais prend en quelque sorte la place, occupe le même rang, on va dire, que ces langues de la dématérialisation de l'information. Donc on est bien loin, j'irais, d'une réflexion qui était très présente dans les années 70-80, hein, où l'anglais, on se posait la question, est-ce que j'enseigne la langue du Commonwealth, la langue du Royaume-Uni, la langue des États-Unis ? Non, je dirais, on enseigne, ce que l'on, quand on est professeur de français, ce qu'on a devant soi, c'est d'une certaine façon une non-langue. L'autre point que je voulais souligner, c'est que j'ai envie de dire que l'apprentissage de langue, elle se fait maintenant hors du système scolaire. Alors, c'est une affirmation assez provocante. Je le fais bien sûr en toute connaissance de cause, mais de se dire que elle modifie en profondeur le rôle du professeur de français, c'est-à-dire qu'il faut absolument admettre que nos élèves peuvent apprendre une langue sans les enseignants. Et du coup, que lorsqu'on se définit comme professeur de français, on peut, je dirais, tout à fait être frappé de myopie, c'est-à-dire ne voir dans les élèves qu'une langue, la langue que l'on enseigne, alors qu'ils ont souvent ce qu'on pourrait appeler un capital plurilingue et pluriculturel qui est invisible si on se centre à l'intérieur simplement de la discipline français. Donc, ces phénomènes invisibles, je dirais, le professeur de langue doit apprendre à les voir. Et comprendre en quelque sorte le curriculum caché de ces élèves dès qu'on a l'envie d'avoir un regard vers ce curriculum, on est toujours surpris, si vous voulez, du potentiel que l'on a, par exemple, dans une classe et qui était, dirais, inconnu si on attrape les élèves, si l'on les identifie uniquement comme des apprenants de français. Alors, ce capital des élèves, donc, je dirais, il ne faut pas le négliger, il faut travailler avec hein, ce capital plurilingue et pluriculturel. Il se dévoile souvent hors de l'école, parce que les élèves ont bien compris que l'école ne leur demandait pas souvent, hein, de leur montrer l'ensemble de ce capital ou de ces répertoires linguistiques. Donc, il peut se dévoiler à certains moments, je dirais de façon subreptice, mais aussi dans la vie privée, hein, dans les choix que des élèves vont faire hors école ou à niveau universitaire. Hein, c'est là où, par exemple, ah, on va s'apercevoir que, eh oui, c'est tel élève de technologie était aussi parler le polonais, qui va choisir de faire un stage dans une entreprise en Pologne, par exemple. Hein. Donc, il me semble que l'enseignant doit être très sensible à cet environnement. Et du coup, la première conséquence, je dirais, elle est un peu paradoxale, mais c'est de se décentrer par rapport à une vision qui serait uniquement, je dirais, professeur de français. Hein. Et je voudrais insister sur les renversements. Ce sera mon dernier point avant de passer la parole aux collègues, sur ces élèves que souvent des systèmes éducatifs marginalisent, qu'on appelle en français des élèves migrants. Hein. Donc, là, on les a appelés en France non francophones, on a rectifié le tir. Maintenant, on parlera plutôt d'élèves allophones, hein. Mais moi, je les verrais bien comme les emblèmes de cette mondialisation. Hein, c'est-à-dire comme des élèves qui ont vécu d'une extrême densité, qui ont ce capital plurilingue. Je dirais qu'il faut faire attention aux autres, ceux qui justement n'ont pas encore cette histoire, mais qui sera absolument décisive pour les parcours d'ascension sociale que tout parent ou tout élève souhaite. Rien de pire, je dirais, qu'un élève qui serait un très bon locuteur, maîtriserait bien le système linguistique de la langue française, mais qui n'aurait pas ce capital, cet appétit, si vous voulez, un peu conquérant. D'aucuns diraient ce profil d'entrepreneur, si chéri par l'économie libérale, et qui serait toujours un peu apeuré par la découverte de l'ailleurs, sachant qu'il y a des ailleurs qui peuvent être dans la proximité immédiate. Hein, j'entendais sur une chaîne de radio française qui s'appelle France Culture, un sociologue d'une université du nord de Paris, donc avec des élèves qui sont, pour moi, je dirais, des emblèmes de la mondialisation, mais qui n'avaient pas encore été dans les quartiers riches de Paris. Et ce travail de sociologue, vous l'avez partagé cette émission, eh bien, un premier travail, hein, c'était de les emmener dans le 8e arrondissement, on va dire arrondissement des Champs-Élysées, pour découvrir une facette de la société qu'ils n'avaient jamais découverte. Donc, c'est ce que je mettrais dans cet appétit d'ailleurs, et il me semble que le rôle de l'enseignant est là, c'est-à-dire de leur ouvrir ces frontières qui sont aussi des frontières sociales. Voilà.
Merci beaucoup pour ces premiers éclairages et ces premiers éléments. Je retiens avec beaucoup d'attention ce que vous venez de dire, en fait, de ces ambassadeurs, ces élèves allophones qu'on considère en difficulté et qui sont sans doute les modèles de notre mondialisation, c'est des élèves plurilingues, pluriculturels, et j'avais entendu la même émission que vous. Donc maintenant, on va voir un petit peu contextuellement comment ça se passe. Je vais passer la parole à Nandita pour un éclairage indien et sur effectivement ces questions de compétences interculturelles, d'enjeux de mondialisation pour un pays qui est un continent et qui est pluriculturel et plurilingue.
En Inde, on a tellement l'habitude. Alors là, on m'avait demandé donc de parler justement de comment on travaille avec ces différences et comment intégrer. Alors, le premier problème qu'on a constaté, c'est qu'on a tellement l'habitude d'exister dans une espèce de bouillante culture, enfin, multi-tout, communauté, religion, langue, siècle des fois, qu'on se rend souvent même pas compte qu'il y a un vrai décalage interculturel. On a plutôt tendance à se dire « Oh ben ça va, c'est comme ça, c'est pas grave, on va faire avec. » Et on passe à côté de plusieurs solutions qu'on pourrait apporter à des situations en consciemment y penser. Alors, depuis qu'on a de plus en plus d'entreprises multinationales qui s'installent en Inde, on a bien sûr eu des interactions avec des cadres qui viennent un peu de pays différents du monde. Et bien sûr, nos propres, enfin, les employés indiens de ces multinationales qui ont quand même évoqué un certain nombre de questionnements, de problèmes. Pour vous dire, bon, au lieu de résumer, je préfère rapidement. Voilà, le genre de. Non, c'est pas la peine. D'accord. Comme vous avez dit que pas de PPT, alors pas de PPT. Alors, on a discuté avec, il y a un jeune français entrepreneur qui s'est installé dans notre ville et il y a un tout petit groupe d'employés, 16 employés, 4 français et les autres indiens. Et on a demandé, donc il a fait la demande pour augmenter la cohésion et travailler ensemble, etc. Et on a juste passé un moment avec ces gens et on leur a demandé de sortir en fait leur réaction à leur travail ensemble. Alors bon, je vais juste rapidement vous lire des petites pensées qu'ils ont partagées avec nous. Alors d'un côté, il y avait par exemple « J'arrive pas à le caser dans une équipe de travail, comment je vais faire ?»« Impossible de faire équipe avec ces Indiens, ils me laissent pas dire un mot, ils parlent tous en même temps, c'est le bazar !»« Oh, elle est bizarre, elle ne veut pas se mettre à côté de moi pour regarder un diapo ensemble !» Elle met tout le temps sa main sur mon épaule. Je déteste qu'on me touche. Bon, il ne se met jamais debout quand le chef entre dans son bureau. Mais qu'est-ce qu'il est gonflé, celui-là? Mais quelle bande de lèche-bottes! Ils sont vraiment obligés de se comporter en esclaves. Eh ben voilà, il est 13h. Ça va sortir pendant une heure entière maintenant. Le thé encore? Le bureau entier pue le thé sucré toute la journée. Ils ne peuvent pas sortir prendre le thé dans le couloir ou le jardin comme des civilisés. Et voilà. Incompréhension culturelle. Et évidemment, la tendance était plutôt de mettre ça sur le dos de l'individu. Tandis qu'en fait, ce n'était pas du tout la faute de l'individu. C'était tout simplement une collectivité d'habitudes culturelles, d'habitudes de façon de faire qu'on est conditionné à faire avec. Alors, du coup, on s'était dit, OK, bon, déjà, il faut qu'on arrive à les mettre devant ces différences. Il faut accepter qu'on est différent et que ce n'est pas forcément négatif de coexister avec cette différence. Il ne s'agit pas non plus que de mettre les Indiens au café ou que demander aux Français de ne pas sortir une heure pendant le déjeuner. Enfin, ce n'est pas la peine. On garde ces différences. Je suis désolée. Non, mais justement, c'est il faut accepter qu'il y a des choses dont on n'est pas capable. Et c'est ça, on a beau parler de se changer, de s'intégrer à une culture où on arrive et tout, mais il y a des choses qui ne changent pas. Et il faut faire avec. Et comment faire avec, c'est la seule chose sur laquelle on peut travailler. Alors, quand on a eu cette demande donc, de ce propriétaire d'entreprise, je travaillais en même temps dans une école de gestion où on avait développé avec les étudiants des petites scénettes. Je travaillais sur une technique que je développais à l'époque qui s'appelait, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, mais que j'appelais à l'époque la vidéosimulation. Donc, on travaillait beaucoup sur. C'était des écoles de gestion. Donc, normalement, on a droit à 35 heures de travail avec chaque groupe, pour qu'ils parlent français, pour qu'ils puissent s'intégrer dans une entreprise française ou francophone. 35 heures, c'est impossible. Donc la seule manière de travailler, c'était en travaillant avec des petites scénettes. Et comme ça a un peu bien marché, on m'a quand même accordé 20 heures de plus. Donc on a pu tourner ces scénettes. Alors j'avais ces vidéos avec moi, je vais vous passer ces vidéos tout à l'heure, une petite vidéo tout à l'heure. Et j'ai partagé ces vidéos avec justement les employés de cette entreprise. On s'est mis ensemble avec les étudiants de gestion, les employés de cette entreprise, indiens et français. Et on s'est rendu compte en fait que, en voyant justement la différence entre comment se comporte par exemple un cadre indien dans un milieu francophone, dans une entreprise française ou francophone, et comment sur ces petites scénettes il s'était comporté, on a remarqué la différence. Alors là, je suis à la recherche d'une petite équipe française, justement, de jeunes qui acceptent à faire la même chose dans l'autre sens. Mais bon, ça, je n'ai pas encore trouvé en Inde. Si vous voulez bien, je vous passe la vidéo tout de suite et on continue.
Manuela, tu peux aller voir. Il n'y a pas le son.
Non. Si, c'est le maximum.
Non, mais il doit y avoir un truc pour. Est-ce que tu l'as lancé là ? Il faut appuyer sur un machin pour avoir le son.
Je vais chercher les collègues parce que je préfère. Ouais. Ah si, ça y est.
Tu veux demander c'est à bon Jérôme ? Non, il faut appuyer sur un truc pour que ça sorte par les enceintes. Mural. Non, c'est pas sur l'ordinateur, c'est sur le.
On peut le passer après peut-être alors, oui. En attendant qu'il arrive.
Oui. La discussion a donné finalement, en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on a. Les jeunes Français qui débarquent travailler dans des entreprises multinationales françaises en Inde ont quand même une sorte d'induction. Ils passent par une formation avant de venir. Souvent, quand ils arrivent, il y a des entreprises qui font venir des experts pour leur parler un tout petit peu de l'intégration dans la société indienne, etc. Donc, ce n'est pas comme si on ne faisait rien. Mais on s'est rendu compte, en fait, que ce n'est pas juste la culture de travail, ce n'est pas juste la culture d'entreprise dont il faut parler. C'est finalement la culture locale qui se traduit en culture d'entreprise. Et si on ne parle pas, si on n'accepte pas que la culture locale est très différente, il ne suffira jamais de juste s'intégrer à la culture d'entreprise. Parce que finalement, en Inde, la culture d'entreprise, c'est la culture américaine. C'est la culture contemporaine partout. Et on a une tendance plutôt à dire « Oh, c'est partout pareil, c'est pas très différent, etc. »
Avec la direction de gestion,
Ok, merci. On attend que ça charge. Mais...
Merci.
Je t'en prie.
Alors, là, puis là. Oui, mais juste pour que ça soit au début.
Excusez-moi. Bonjour.
Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Jasmine Legrand. J'ai un rendez-vous avec le directeur de gestion. Je suis venue pour me présenter pour la poste de critique dans mon.
Ah oui, bienvenue. Monsieur, vous attendre. Un moment, s'il vous plaît.
Oui.
Voilà, c'est juste un tout petit échantillon. Je ne vais pas passer tout parce que, évidemment, je n'ai pas le temps. Mais, donc, on a fait un travail pendant le tournage de ces vidéos. Ce n'était pas uniquement la langue parce que, bon, dans 40 heures, on pouvait faire juste un truc limité sur la langue française. Mais il y avait aussi toutes les autres choses, les vêtements, le gestuel, comment se porter, comment se présenter, l'attitude physique, tout simplement. Et ça, c'était un travail qui avait beaucoup... impliquer aussi les étudiants, dans le sens où on leur a demandé d'aller chercher sur YouTube des scènes de travail en entreprise en France, etc. Et cette communication entre les étudiants d'un côté et les cadres qui existaient vraiment dans cet environnement de l'autre a donné finalement un travail d'équipe. On continue à travailler dessus, on n'a pas encore un document final, encore. Mais la question était tout simplement comment... transmettre ce qu'on a réussi à constater, à apprendre par ces expériences-là aux futurs cadres, finalement, aux cadres qui vont être dans des situations d'entreprise bientôt. Et du coup, là, on a réussi à mettre ensemble, dans ma ville, un groupe de jeunes profs qui, donc, maintenant, commencent à travailler dans des écoles de gestion, souvent qui sont obligés de travailler donc comme moi avec un nombre d'heures limité toujours au pif en nous disant oh non on n'a que 30 heures pour le français, on n'a que 40 heures pour le français, et évidemment à la fin de ces 30-40 heures il faut que les gens soient capables de prendre un appel d'entreprise en français. Alors finalement on a décidé de lancer un groupe de soutien autour de excusez-moi.
Ça, c'est culturel.
Non, mais la plus grande peur, c'était que ce soit la mienne. Parce que la musique est un tout petit peu pareille, donc. Voilà, l'interculturel. Et donc là, on a mis en place un petit groupe de 5-6 enseignants qui ont accepté donc de travailler sur un tout petit peu les mêmes outils, vidéosimulation, mais toujours en mettant ensemble une équipe étudiante et une équipe cadre. Et donc voilà, ça c'est une expérience qui continue. Et là, on se dit que l'interculturel, il y a énormément de choses à faire. Il n'y a pas que dans l'entreprise, mais là où on fait la demande vraiment consciemment aujourd'hui, c'est dans l'entreprise. L'interculturel, c'est un domaine passionnant et on peut travailler toute une vie sans vraiment y arriver. Mais là, pour les entreprises, au moins, on voit des résultats tout de suite. Et j'ai eu, après, c'est le propriétaire, le monsieur qui nous a dit qu'il a vu vraiment une différence dans la cohésion d'équipe. Il a vu aussi que même au niveau du travail de tous les jours, il ne voyait plus groupe indien, groupe français. C'était un mélange au niveau du bureau, il se fréquentait beaucoup plus. Et chez les étudiants, parmi ces 16 étudiants qui faisaient partie de ce groupe de travail, il y a à peu près 6 qui ont été pris par des entreprises françaises, donc Saint-Gobain, L'Oréal, Michelin et compagnie. Donc voilà, un peu les résultats immédiats. Merci.
Merci beaucoup. Vous avez raison d'insister sur la dimension identitaire, finalement. C'est pas tant la question de la différence que de la question du même et de soi. Qui suis-je dans cette mondialisation interculturelle? On va passer au contexte nord-américain avec Marc Albert. Pour votre point de vue, dans un pays fondamentalement bilingue et biculturel, peut-être si vous pouviez également insister sur les interrogations des enseignants sur ces questions interculturelles, éventuellement sur ce que votre association apporte en termes de développement professionnel, d'accompagnement à la question interculturelle, s'il vous plaît.
Mm-hmm. Alors bonjour. Premièrement, un peu situer le Canada. Le Canada, c'est un pays qui est vachement grand, avec assez peu de personnes qui habitent dedans. toute proportion gardée, parce que, bon, il n'y a jamais vraiment beaucoup de gens qui aiment vivre à moins 50. C'est pour ça qu'on reste plus dans le sud, de manière générale. Par contre, au niveau des communautés culturelles, et surtout des communautés linguistiques, on a souvent parlé du Canada comme étant le pays des deux solitudes, je dirais même des trois solitudes, parce que si les anglophones et les francophones partagent un territoire, c'est sûr, avec, comme Suzanne l'a présenté, avec des communautés majoritaires selon les provinces et les territoires, elles se parlent assez peu. On se côtoie, on se croise, on va dans les mêmes centres d'achat, on travaille dans les mêmes entreprises, mais c'est vraiment deux univers parallèles. Moi, je suis quelqu'un d'étrange. Je suis un francophone qui travaille en milieu anglophone. Et donc, je suis vraiment bizarre. Parce que je leur fais écouter de la musique en français, qui est faite à Montréal, qui est de l'autre bord du pont de où j'habite, de là où j'habite, et mes élèves, ils trouvent ça vraiment exotique. Donc, pour nous, c'est un peu ça la réalité. Puis, quand je parle de trois solitudes, c'est qu'il y a aussi toutes les Premières Nations qui... on est encore là, toujours, dans un territoire qui se rapproche, mais on ne se côtoie pas. Et par-dessus tout ça, on a à peu près, si on parle des écoles, 24 % d'apprenants qui sont nés dans un autre pays. Ça fait toujours un élève sur quatre, c'est énorme. Donc, on a tout ça qui se fréquente, qui se côtoie. Et puis, ben, faut voir un peu comment tout ça vit dans la salle de classe. Au niveau de ma réponse, je vais le diviser, dans le fond, entre la réalité de l'enseignant et la réalité qu'il vit dans sa salle de classe. Donc, je vais d'abord commencer à l'extérieur de la classe. En français langue seconde, la plupart des enseignants qui vont dans ce champ-là à l'université sont des gens qui ont déjà un intérêt vers l'autre, en partant. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils n'enseigneront pas à des gens de leur culture ou de leur communauté linguistique. Donc, ce sont des enseignants qui soit ont pour volonté d'accueillir des immigrants, ou soit un intérêt de voyage, ou soit un intérêt de franchir le mur linguistique, comme moi, puis de travailler avec des anglophones ou des gens des Premières Nations. Il y a ce désir-là qui existe, mais il y a également la réalité dont Suzanne parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que en ce moment, au niveau des emplois, c'est un peu limité dans ce qu'on peut avoir au Québec. Donc, un enseignant de français langue seconde sera souvent appelé à déménager dans une autre province canadienne s'il veut rester dans l'enseignement, à moins qu'il accepte d'avoir des contrats de suppléance ou des remplacements pour une vie et corps. Donc, le voyage, c'est une il y a un volet d'intérêt, mais il y a aussi un volet de besoin de travailler puis de pouvoir vivre sa vie, tout simplement. Donc, ça, c'est un peu ce qui se passe à l'extérieur de la classe. À l'intérieur de la classe, mais je vous ai déjà dit qu'on a 24 % d'immigrants dans nos écoles, la gestion de la diversité se fait au niveau de la culture, mais de la culture, bon, au niveau des pays d'origine, tout ça, mais on inclut beaucoup tout ce qui a rapport à la diversité très large, au sens, par exemple, des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, des déficits d'attention, des problèmes de mobilité. Toutes les diversités possibles et imaginables sont dans notre quotidien, puis c'est pas qu'au Québec ou au Canada que ça se trouve. Donc, c'est quelque chose avec quoi on doit composer. On vit aussi dans une réalité où, par exemple, en secteur francophone, il va y avoir des classes d'accueil. Donc, un immigrant va avoir un an, deux ans, trois ans, où il va avoir un genre de cours condensé pour maîtriser langue et culture, puis les notions de base, avant de réintégrer le parcours régulier avec plein d'autres francophones. C'est bien, mais c'est jamais final. C'est comme une formation initiale. Quand on apprend à être enseignant, ben c'est comme Suzanne le disait, c'est initial. Après ça, il y a tout à faire. Donc, pour l'immigrant, oui, il va avoir, pour les adultes, un cours de francisation qui va durer à peu près un an ou 10 mois. Mais après, il y a encore tout à faire, parce qu'il faut la vivre, cette culture-là. Et c'est un défi auquel les enseignants sont confrontés. Dans les associations, il y a des demandes claires de nos membres qui disent, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai un étudiant qui vient de je ne sais pas où. Comment je fais pour comprendre comment il vit ce qui a été mentionné par ma collègue tout à l'heure à propos justement de qu'est-ce qu'on fait quand on a plusieurs cultures qui se rencontrent dans un même endroit, dans un même lieu de vie, que ce soit la salle de classe ou le milieu de travail. Comment est-ce qu'on gère ça? Donc, il y a différents volets dans les offres qui ont été faites chez nous. D'une part, des fois, il y avait des questions très ciblées. Par exemple, j'ai un groupe d'étudiants chinois. Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment ça marche? Et des fois, ça va être des questions plus générales, au sens d'une espèce d'intérêt sur la pédagogie de la compétence interculturelle en salle de classe. Comment on fait, dans le fond, parce qu'à un moment donné, Il y en a tellement de cultures dans le monde, on ne peut pas toujours aller dans du un pour un. On a plein de pays qui sont représentés chez nous. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir une compréhension plus globale? Alors, c'est vraiment là-dedans que vont se trouver les formations. Ça va se faire, parfois il va y avoir des journées d'études, parfois, ça va, le plus souvent, en fait, ça va être dans le cadre de congrès, ou sinon dans les magazines, dans les revues qu'on va trouver, ou dans les formations données dans les commissions scolaires. Donc, c'est pas mal le portrait qu'on a là-dedans. En formation initiale des maîtres, on a un cours de 45 heures, en tout cas, c'est ça que j'ai vécu. Et c'est, puis notre enseignante, notre professeur nous le disait déjà, elle dit, bon, c'est pour vous éveiller à la chose, mais après, il y a tout à faire. Et puis, ben, on espère que les gens s'intéressent à ça. Une critique peut-être que j'ai par rapport à mes collègues du Québec, c'est qu'il y a des enseignants qui ont vraiment un intérêt marqué pour différents volets au niveau des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, des savoir-agir, tout ça. Il y a un certain nombre d'enseignants, ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont se limiter à dire, allez, on fait quelque chose pour la semaine de la francophonie, parle-moi du pain baguette. C'est gentil, mais j'espère qu'un français ne se résume pas à un pain baguette. Donc, il y a différents niveaux de maîtrise, je dirais, de la compétence interculturelle dans la salle de classe, mais il y a certainement un intérêt. Puis quand viennent les différents élèves dans le quotidien de la classe, c'est à ce moment-là souvent que l'enseignant va chercher justement à aller plus en profondeur dans sa maîtrise des compétences interculturelles. Ça donne une idée.
Merci en plus d'avoir été concis. c'est très intéressant puisqu'en fait vous dites des choses sur l'émerveillement face à l'autre et la mondialisation ou l'interculturalité comme une chance pour pouvoir remettre en question son travail et aller vers autrui. Je voudrais pour terminer passer la parole à Geneviève Zarat pour les derniers et puis évidemment après à vos questions sur les enjeux, l'avenir de l'éducation interculturelle, que ces enjeux soient politiques ou pédagogiques. Quel est votre point de vue, madame?
Je pense que vous... Enfin, j'ai compris que vous m'invitiez à un exercice de prospective. Donc, évidemment, c'est un exercice à la fois facile et difficile. Facile parce que on peut dire tout et n'importe quoi, je dirais, si on se projette dans les années 2030 ou 2040. Et en même temps, difficile, parce qu'il faut vraiment sortir, je dirais, des cadres qui nous sont familiers. Hein, je pense que si on veut, en tout cas, répondre à la question posée par ces journées, les évolutions du métier de professeur de français, les accompagner, dans la perspective d'un 21e siècle, hein, que j'ajouterais, je pense qu'il faut accepter d'être déstabilisé. Alors, j'aurais quatre propositions, mais sachant que après vous avez la parole pour le débat, je dirais que, à mon avis, si on veut parler d'éducation interculturelle, il faut chercher un modèle indépendant de l'économie libérale. Parce que, effectivement, ce terme d'éducation interculturelle a déjà été mis en place dès les années 60 par les entreprises. Hein, la formation des expatriés, en particulier les États-Unis ont été leaders dans ce domaine, montré déjà des exemples, souvent des exercices, des fiches pour des formateurs. Mais il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, la capacité, c'est former les personnes pour générer, je dirais, un profit pour l'entreprise qui expatrie. Je ne pense pas qu'en tant qu'éducateur, ce soit notre propos. Enfin, en tout cas, c'est un choix que je fais ici préliminaire. Et dire plutôt notre formation d'éducateur, c'est justement de donner ces chances à tous, en particulier ceux qui ne les ont pas encore dans leur je dirais leur capital social. Vous nous avez montré l'exemple de l'entreprise. Je pense que l'entreprise en soi n'est pas à stigmatiser, mais que la formation interculturelle en entreprise, je dirais, il peut y avoir différents modèles. Hein, il y a le modèle, je dirais, d'efficacité immédiate, et dans ce cas-là, l'individu s'efface derrière l'intérêt général de l'entreprise, ou en entreprise, on peut aussi former les individus à la différence. Je pense que c'était votre propos. Je pense à d'autres cas aussi assez chargés d'ambiguïté et qui pourraient exister. Enfin, ce qu'on appelle les écoles internationales. Hein. Donc, c'est pas seulement les lycées internationaux, mais je dirais les usages du terme international qui sont faits en formation dans des pays comme l'Égypte, par exemple, ou la Chine, ou la Corée. Où, en général, cette ouverture vers l'international est associée à une idée d'une éducation interculturelle, mais cette fois au bénéfice de la formation d'une élite qui aura donc accès à cet univers, on va dire, d'une jet set internationale. Dans ce cas-là, la finalité égalitaire, si vous voulez, disparaît au profit, au contraire, d'un profit de distinction. Donc ça, c'est ma première remarque sur ces enjeux. Hein, ne pas trouver des modèles, nous, je dirais, professeurs de langue, aller vers des modèles indépendants, des modèles immédiats, très présents, très attractifs, très séduisants de l'économie libérale. Alors, évidemment, là, la définition est un petit peu large, on pourra la discuter. Deuxième remarque, il me semble que dans cette vision prospective qui me semble-t-il est posée ici, c'est faire évoluer la définition de ce que c'est qu'une langue. Je pense que cette définition, elle est encore très gagée sur l'idée de la langue comme un instrument de communication. Même quelquefois un simple instrument de communication. On retrouve l'expression même dans le cadre européen commun de référence, qui est pourtant une bible qui a fait avancer le débat. Et que ça me semble tout à fait insuffisant parce que cette définition repose sur l'idée de justement la langue comme système linguistique. Moi, j'aimerais qu'on réfléchisse sur une autre définition, la langue comme lien social. Il me semble que dans le projet que vous avez proposé, il y a cet esprit-là. Mais, enfin, si vous me permettez de réagir, 45 heures de formation pour faire passer en fait des a priori très conséquents d'une autre définition, évidemment, c'est, je dirais, d'une certaine façon insuffisant parce que ça veut dire que la définition principale, la langue est un système linguistique, on y ajoute tout simplement un petit quelque chose pour dire la langue, c'est aussi la construction du lien social dans un pays multiculturel comme le Canada. Donc, là, il me semble qu'il faut aller beaucoup plus loin et accepter aussi d'être déstabilisé, de changer en quelque sorte de centre de gravité et d'aller vers cette définition. Ma troisième remarque, donc, sur l'éducation interculturelle elle-même, je dirais qu'elle ne doit pas être limitée aux migrants. Elle l'a été à un moment, y compris en France, associée à un public particulier, comme si le reste de la société pouvait s'en dédouaner. Je ne pense plus qu'on en est là, hein, c'est-à-dire qu'elle s'applique à toutes les facettes d'une société, et pas seulement, je dirais, ces enfants ou ces adultes qui ont traversé plusieurs langues, plusieurs cultures. Et je pense au rôle, justement, des institutions. Hein, c'est-à-dire que ce sont un phénomène comme la mondialisation est un phénomène extrêmement déstructurant et restructurant. Et il bouleverse l'ensemble d'une société. Vous savez que l'Europe est malmenée en ce moment, je veux dire justement, parce qu'elle doit s'adapter à des nouvelles formes de réorganisation sociale qui sont bien difficiles à imaginer, à penser. Et lorsqu'on entend des personnes dire « mais voilà, j'ai travaillé pendant 35 ans dans cette entreprise et voilà ce qu'elle fait de moi », vous voyez qu'on a un raisonnement qu'on comprend très bien, mais ancré sur le passé, mais pas justement dans cette réorganisation. Et je pense que donc les institutions de l'État, alors évidemment, dans tous les pays que vous représentez, l'État n'a pas la même force, n'a pas la même prégnance, ne s'incarne pas de la même façon dans les institutions, mais l'école, bien sûr, en est une, les hôpitaux, l'administration, les entreprises aussi. Mais de dire que ces institutions, elles doivent aussi, elles ont un pouvoir un peu magique, qui est celui de la reconnaissance, et de la reconnaissance sociale. Et ça, je pense qu'il faudrait œuvrer, si vous voulez, pour que nous, professeurs de français, hein, reconnaissons dans ce travail de reconnaissance, nous identifions à ce travail de reconnaissance sociale, qui me semble être à la mesure. Ça ne coûte rien par rapport à l'économie libérale. Hein, c'est souvent une parole, quand je dirais magique, c'est une magie d'État, hein, celle de la parole d'autorité, en quelque sorte, que peuvent avoir des institutions très fortes. Mais prendre avec soi, si vous voulez, incorporer dans l'idée du métier d'enseignant et d'enseignant de langue, évidemment, ce travail. Ma dernière remarque, si vous me permettez, c'est donc aussi d'accepter que le paradigme sur lequel nous avons fonctionné depuis sans doute 200 ans sur l'enseignement des langues soit lui aussi un peu bousculé. Je pense que l'enseignement des langues a beaucoup fonctionné autour du paradigme guerre et paix. Hein, on sait que les guerres ont été aussi porteuses d'innovation dans les méthodes de réflexion, d'apprentissage des langues, la massification de l'apprentissage des langues, l'introduction des nouvelles technologies, etc. Mais n'oublions pas que ce secteur, je suis encore professeur émérite à l'INALCO. L'INALCO, faut pas oublier que il forme aussi des militaires à l'apprentissage d'autres langues pour des services de renseignement. Et je pense que, bien sûr, c'est un lieu très isolé, très différent de l'enseignement des langues, mais il illustre bien, je dirais, le paradigme guerre. Et je pense que dans le monde actuel, ce paradigme, nous ne pouvons pas l'oublier, même si la finalité de l'éducation, c'est bien sûr de prêcher la paix. Mais ce paradigme guerre et paix, on va dire, il s'est construit autour de la notion d'État. Hein, c'est-à-dire que très souvent, les langues sont incarnées par des États. Et je pense que je soumets à votre réflexion l'idée que cette mondialisation bouscule la notion d'État, hein, telle que nous l'avons reçue, qui s'est construite, on va dire, grosso modo, au XIXe siècle, où dès que les empires se sont disloqués après les deux premières guerres mondiales, mais que l'enseignement des langues reste malgré tout encore ancré dans cette notion d'une langue, un État, et que ce paradigme-là, il faut sans doute le bousculer. Alors, bon, j'ai une proposition que j'aurais pas le temps de développer, mais si on définit l'enseignant comme un médiateur, vous voyez que on échappe, ça peut être une façon de s'échapper à l'autre paradigme que j'opposerais, c'est-à-dire l'enseignant comme ambassadeur d'un pays. Hein, donc avec cette fonction de représentant d'un pays, d'une culture, qui est, c'est le paradigme, je dirais, que je verrais personnellement comme un héritage, si vous voulez, de la langue, un État. Hein, et il me semble que ce paradigme-là est en train de s'affaisser devant la mondialisation et que nous devons en tenir compte, dans la façon dont nous construisons, nous définissons le métier de professeur de langue. Alors, je m'excuse, je peux apparaître très abstraite. Mais je suis sûre, si vous voulez, que tout ça peut s'incarner, en particulier en termes de formation, mais dans une formation finalement très profondément repensée par rapport à ce que nous avons nous-mêmes vécu ici.
Merci infiniment, madame, pour votre analyse. Vous pouvez applaudir, oui. Et pour ces différents bouleversements que vous évoquez, ce dépassement aussi de ce que Huntington appelait le choc des civilisations, c'est-à-dire que la mondialisation n'est plus là pour mettre les cultures les unes contre les autres, mais au contraire, éventuellement via le professeur, une médiation entre les différentes cultures et réaffirmer la dimension interculturelle.